Frères et sœurs, bonjour.
Bonjour, pasteur Aaron.
Voulez-vous que nous inclinions nos fronts ? Seigneur, nous te demandons que ta grâce, source de délivrance et de salut pour tous, se répande sur toute ton assemblée, sans exception. Au nom du Seigneur Jésus, amen. Amen. Je suis totalement, entièrement d'accord avec ce que vient de dire notre frère, monsieur Barma. Tout à fait, 100% d'accord. Mes frères et sœurs, serrons nos coudes autour de Jésus-Christ et Satan fait toujours une œuvre qu'il trompe. Et quand il attaque l'Église, c'est parce qu'il sait que l'Église va être bénie. Vous ne croyez pas ? Alors, je vous invite à faire une lecture sur le texte de l'apôtre Jean, chapitre 1er de l'Évangile. Bon, ce texte, vous le connaissez parfaitement, mais on va faire cette petite lecture du verset 17 du premier chapitre de l'Évangile selon Jean. Petite partie avec le verset 16, qui est très court. Et voici ce que dit la parole de Dieu. « Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. » Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître et nous pouvons dire la grâce, mes frères et sœurs, et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Avez-vous vu ? Il n'est pas écrit la vérité et la grâce, mais la grâce et la vérité sont venues par une personne, la personne de Jésus. Je vous invite maintenant à ouvrir l'Épître aux Romains, au chapitre 5, pour arrêter nos yeux, chapitre 5, verset 17. « Et si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Et le verset 20, « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. » Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que quoi ? Comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur, et nous pouvons dire... Amen. Il y a quelque temps, mes frères et sœurs, on avait parlé, si vous en souvenez, peut-être vous avez dormi, mais c'était un après-midi, sur ce que l'apôtre Paul disait, quand il parle aux chrétiens, il dit « Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. » Et là, le Seigneur nous parle d'un autre règne. Il nous est dit ici, on l'a lu, « Afin que la grâce... » règne. Frères et sœurs, soyons une assemblée où la grâce de Dieu peut régner. Car si vous lisez attentivement les Actes des Apôtres, vous trouverez au chapitre 5 cette petite phrase. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposait sur eux tous. Et c'est le verbe reposer. C'est-à-dire la grâce de Dieu se plaisait. La grâce de Dieu n'était pas au milieu de conflits, d'agitations, de mauvaises paroles. La grâce de Dieu dans l'Église primitive, dans Acte 5, reposait sur l'Église. Et je vous dis ça, c'est parce que en priant cette nuit pour ce culte de cet après-midi, ce verset est venu comme des lettres de feu. Tu leur diras, je vous le dis, qu'une grande grâce repose sur l'Église. Car, vous auriez pu dire amen quand même, enfin, ouais. Car, qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu ? L'apôtre nous a dit tout à l'heure, on l'a lu, la loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité nous ont été données par Jésus. Le péché est venu dans le monde par l'offense d'un seul, de même le salut est venu dans le monde par l'obéissance d'un seul, et cet homme qui a obéi, qui est plus qu'un homme, fils de l'homme, fils de Dieu, c'est le Seigneur. Mes frères et sœurs, si on regarde bien, depuis notre naissance sur la terre, nous sommes soumis à deux rois, non ? Oui. Bah, vous savez, nous les Français, on a eu Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XVII, Louis XVIII, bref. Mais en réalité, nous sommes soumis ou à l'un ou à l'autre, à deux rois. Le premier qui a soumis notre vie et qui nous tient par la terreur, c'est le roi Satan, le prince de ce monde, le péché qui abonde en nous et qui nous fait faire ce qu'on ne veut pas faire, aimer ce que nous ne voulons pas aimer, détester. Et pourtant, l'apôtre Paul dit « J'aime pas ces choses, mais je les fais, malheur à moi !» Voyez-vous, on a tous, par notre naissance dans le monde entier, un roi qui est venu sur nous, un roi trompeur, la loi du péché. Vous avez remarqué que dès qu'Adam et Ève ont désobéi, vous avez vu ce qui est apparu ? La peur, oui, mais après. Oui, et après. La violence, la mort, un crime dans une famille. Et aujourd'hui, on attend, même dans notre région, autour de Paris, des adolescents qui se tuent. Oui, il y a un Dieu qui règne dans ce monde et qui apporte la mort, la peur et les pleurs. Et ça, nous devons considérer que nous vivons dans un monde de ténèbres. Mais le prophète Ésaïe, 700 ans avant que Jésus ne vienne, dira « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours !» Et il y a plus de 2000 ans, les ténèbres ont été vaincues par la lumière du monde qui est apparue, et cette lumière, c'est... C'est ça la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. La grâce de Dieu, c'est une personne. Et depuis ce jour-là, le roi Satan, le péché, a été détrôné, renversé, écarté, éjecté de nos vies. Puisque nous sommes passés par notre conversion, quand on se convertit, on passe des ténèbres à la lumière, de la mort, voilà. Et c'est ça la grâce de Dieu. Nous avons connu la grâce de Dieu. Et quand je pense que dans l'Église primitive, au chapitre 5, il est écrit « Une grande grâce reposait sur toute l'Église ». Ça veut dire, Seigneur, que tu avais toute la plénitude dans l'Église primitive. Tu étais vraiment le chef, le Seigneur de gloire. Et Jésus nous a expliqué que aujourd'hui, frères et sœurs, on est passé des ténèbres à la lumière. Et quand Jésus prêchait, regardez bien ce qu'il disait, le royaume de Dieu, il est là. Et puis, il est proche. Le royaume de Dieu vient. Et depuis le jour de votre conversion, de notre conversion, nous sommes passés du royaume des ténèbres et nous vivons dans le royaume de Dieu. Oui, d'accord. Or, le royaume de Dieu, c'est écrit dans la parole de Dieu, ne consiste pas dans le manger et le boire, mais en justice, en paix, en joie, par le Saint-Esprit. C'est ça notre vie aujourd'hui. Dépendons plus de la loi, ceci est permis, celui-ci n'est pas permis. L'Écriture le dit bien, nous sommes passés de la loi à la grâce. Or, mes frères et sœurs, nous vivons sur une grâce exceptionnelle. J'ai été frappé par ce texte, vous savez, c'est une femme qui l'a écrit. Elle s'appelait Anne, la maman de Samuel, dans 1 Samuel, chapitre 2. Et elle souligne cette grande vérité et elle dit « Éternel, toi qui relèves du fumier l'indigent. » C'est ce qu'il a fait pour nous, le Seigneur. Il nous a relevés, fumier de ce monde. Et il le fait asseoir avec les grands. Et vous savez comme moi que c'est écrit que celui qui vaincra, il s'assiera avec qui ? Avec le Seigneur Jésus. Oui, donc nous sommes bien dans ce royaume-là. Donc voyez-vous, deux rois, Satan, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, ce matin, au culte, mon roi, mon unique roi, le roi des rois, c'est que ceux qui le croient lèvent la main et disent « Alléluia ». Oh, frères et sœurs, quand nous disons que Jésus est roi, Satan se sauve comme un voleur. Je ne sais pas si vous avez un petit jardin. Et je ne suis pas du tout un grand jardinier, mais il y a quelques jours, j'ai nettoyé un petit peu mon jardin. Et puis, j'ai soulevé une brique ou un caillou. Et si vous saviez que le fait de soulever le caillou, j'ai vu une quantité de petites bestioles. Mais alors, elles se sont sauvées très rapidement. Hop, hop. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est ça ce que tu nous dis, hein? Quand le péché est tenté, quand le mal est enlevé, bien, tous les démons fichent le camp les uns après les autres, parce que la lumière les gêne. Vivons dans la lumière. Et cette lumière, c'est une personne. Et cette personne, c'est ? La paix, c'est une personne. Et cette paix, c'est ? La grâce, c'est une personne. Et cette paix, c'est ? Et Jésus lui seul, frères et sœurs. Si je voudrais vous inviter, pendant quelques instants, à regarder la grâce. J'ai été frappé par ce texte, vous savez, de Jean, au chapitre 1er, dans un autre verset, je crois que c'est chapitre 2, pardon, ou chapitre 1er. Enfin, cherchez-le, vous allez le trouver. C'est Jean-Baptiste, vous savez, qui est là. Et puis, il y a des disciples à côté de lui. Et il est écrit, Jean-Baptiste, voyant passer Jésus, commentaire de Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste lui-même l'a dit. Mes frères et sœurs, notre roi, c'est pas un dragon, c'est l'agneau de Dieu. Le roi des rois, c'est celui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Alors, regardons. Regardons ce qu'elle fait, la grâce de Dieu. On va la regarder, ce qu'elle fait sur la terre et ce qu'elle fait maintenant dans le ciel, rapidement. Un premier exemple. Je vous emmène faire un tour, non pas en Normandie, mais dans une vallée. Et cette vallée, dans la Bible, vous la trouverez, je vous donnerai le texte tout à l'heure, vous la lirez chez vous. Cette vallée, j'appellerai la vallée de la mort. La vallée de la mort. Pourquoi ? Parce que c'est rempli de mort. Oh. C'est rempli de cadavres. Pire, c'est rempli de squelettes. Dans cette vallée, il y a des os blanchis, desséchés, séparés les uns des autres. Un crâne par ici, un tibia par là-bas. Et puis, il y a un prophète qui est là, qui s'appelle Monsieur Ézéchiel. Et Dieu s'approche et dit, « Fils de l'homme, est-ce que ces os peuvent revivre ?» Donc, voyez-vous, Ézéchiel est transporté par le Seigneur dans un monde de mort. Et nous vivons aujourd'hui dans un monde de mort. Et Ézéchiel dit, « Seigneur, qui revive ça ?» Toi seul, tu le sais. Parce que si ça avait été Ésaïe, vous savez, Ésaïe, il va fort avec ses paroles. Si Ésaïe avait dit, « Esprit de Dieu, relève ces morts !» Les os n'auraient pas bougé. Si Dieu avait envoyé Jérémie avec ses larmes sur la mort, et Jérémie est devant ses squelettes en pleurant, il peut pleurer, mais les os ne bougent pas. Un autre exemple, Ézéchiel, lui-même, qui est un homme de vision, qui a vu la gloire de Dieu. Prenez le premier chapitre, hein, la gloire de Dieu. Eh bien, Ézéchiel est là, et Ézéchiel, il dit rien. Il peut pas. Ésaïe peut pas. Jérémie avec ses larmes peut pas. Ézéchiel peut pas. Prenons Moïse, pas moi, mais Moïse, qui a résisté à Pharaon, qui avec son bâton, par la grâce de Dieu, la mer Rouge est ouverte. Eh bien, Moïse, il est là, puis rien se passe. Moïse parle, les eaux bougent pas. Ézéchiel, les eaux ne bougent pas. Jérémie est là, les eaux ne bougent pas. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de bruit. Puis un seul coup, la voix de Dieu se met dans l'oreille d'Ézéchiel et lui dit, prophétise, fils de Dieu. Et à ce moment-là, mes frères et sœurs, où la voix de Dieu s'est fait entendre par son moyen d'Ézéchiel, qu'est-ce qui s'est passé? Un mouvement, pas vrai? Un mouvement, un rapprochement. Et maintenant, Ézéchiel, vas-y, il y a un mouvement, il y a un rapprochement. Souffle, dit Ézéchiel, des quatre vents. Et mes frères et sœurs, dans la vallée de la mort, ça devient la vallée de la vie. Parce que ces squelettes deviennent des cadavres, ces cadavres deviennent des êtres vivants, et ces êtres vivants deviennent une armée de Dieu. C'est ça qu'elle fait, la grâce de Dieu. Elle prend un corps desséché, blanchi, perdu, dispersé. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde où, malheureusement, les âmes sont sans espérance. Mais rappelez-vous, à la voix de Dieu, il y a eu un mouvement. Seigneur, ce matin au culte, j'ai besoin d'entendre ta voix. Ah, j'aime ce texte de ce vieux cantique, le frère Parmal connaît, et vous le connaissez aussi. Agneau de Dieu, messager de grâce, je veux en... Quoi donc ? On va chanter ensemble. Agneau de Dieu, messager de la grâce, ce matin, je veux en... de ta voix, le langage de la croix. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, quand la voix de Dieu s'est remplie le cœur d'Ézéchiel, il y a eu un mouvement, une agitation, la vie l'a emporté et une armée s'est levée. Et l'église de Jésus-Christ, c'est l'armée de Jésus-Christ. Frères et sœurs, prenons un deuxième exemple. Ce peuple a la vie. Mais il y a peut-être un frère ou une sœur ce matin qui dirait « Oui, j'ai levé ma main, j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai été baptisé, j'ai la vie, j'ai eu la vie, j'étais heureux de venir aux réunions. » Puis je sais pas. Ah, je pensais, les pasteurs le disaient, j'avais lu « plus que vainqueur », mais j'ai un tas de défaites dans ma vie. J'ai un tas de luttes et de combats. Il parle de la paix, mais j'y vois plus rien. Oh, je voudrais tellement être différent des autres, mais je peux pas. J'ai la vie, mais je suis esclave. Eh bien, je vais vous montrer ce que fait la grâce de Dieu. Un homme s'appelle Monsieur Samson. Il avait l'esprit de Dieu, la force de Dieu. Il était capable de faire reculer toute une armée, capable de triompher des renards, une armée de renards, mais avec la mâchoire d'un âne, il était aussi un grand vainqueur. Et ce grand vainqueur a été pris par une faille dans son cœur, une passion charnelle. Et il est tombé dedans. Il est tombé dedans. Il a perdu la vue. Il a perdu le mouvement. Lui, Samson, l'homme libre, regardez-le, il est enchaîné. Et ces chaînes, à mon avis, c'est plus que des chaînes de fer. Ce sont des démons qui sont tout autour de lui. Il a la vie, mais il est enchaîné. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Et peut-être il y a des frères et sœurs qui sont comme cela ce matin, peut-être même qui vous êtes trouvés pris dans certains points faibles et l'adversaire vous a comme enchaîné en disant « Je ne voudrais pas faire, mais je le fais !» Écoutez, regardez ce qu'elle a fait la grâce de Dieu. Samson est tourné avec ses yeux aveugles, ses chaînes. Puis il a dit « ô Dieu, accorde-moi encore. » Et la grâce de Dieu est descendue sur Samson. Il a eu une force comme jamais il a eu, et il a renversé les ennemis comme jamais il l'avait fait. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les liens tombent. Quand Paul et Silas étaient en prison et qu'ils ont chanté les louanges de Dieu, les liens des prisonniers sont cassés. Les portes se sont ouvertes. Et ce qui est vrai pour eux, c'est vrai pour nous, mes frères et sœurs. C'est pas écrit pour nous faire rêver, c'est écrit pour nous le faire vivre tous les jours. La grâce de Dieu, elle donne la vie. Deux. La grâce de Dieu, elle donne la liberté. Je dirais, oui, frère, mais ce matin, je vois très bien, j'ai l'impression que j'ai attristé le Seigneur. Oui. Et vous allez voir le pasteur Barma, sœur Claude, sœur Christophe, vous-même, vous dites, oh, frère, je suis troublé, ça va pas, je sais pas comment m'en sortir, j'ai l'impression que je t'ai blessé. Il y a un homme qui a blessé Dieu, il y a un homme qui a désobéi à Dieu, il y a un homme qui a fait ce que Dieu voulait pas qu'il fasse. Dieu a dit, tu vas aller à droite. Et lui a dit, moi, je vais à gauche. Tu vas aller, bravo, à Nive, la grande ville. Il est écrit, et Jonas courut loin de la face de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon. Et qu'est-ce qu'il s'est retrouvé? Eh bien, il s'est retrouvé qu'en courant vite, Dieu court plus vite que lui. Il y a une tempête. Ah oui. Là, c'est la conséquence, hein, de la désobéissance. Mais il y a une tempête. Et je passe. Il a été jeté dans l'eau pour mourir. Et vous voyez où elle est, la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, elle est en bas. Car des fois, on le chante, « Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus. » Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, tout autour de moi. Il est... Il est... Bien fort. Jésus est le rocher de ma vie. Et dans la mer, il est écrit qu'il est descendu aux racines, plus bas que les montagnes. Et là, la grâce de Dieu, c'est un poisson. Et c'est tellement important que Jésus dit, c'est un signe.
il emploie ce signe, Jonas, fils de l'homme. Oui, mes frères et sœurs, qui c'est qui a amené ce poisson-là? Qui c'est qui l'a conduit à avoir faim à ce moment-là? Qui c'est qui lui a fait ouvrir la gueule à ce moment-là? Sur cet homme-là! C'est la grâce de Dieu. Vous savez ce qu'il dit, Jonas? Il dit, j'étais au fond, mais tu m'as fait remonter. Et ce matin, mon frère, ma sœur, voilà ce qu'elle m'a chargé de te dire, la grâce de Dieu. Toi qui as chuté cette semaine, toi qui as glissé, toi qui as désobéi, Dieu voulait ici et toi t'es ailleurs. Il m'a chargé de te dire qu'il est capable de te ramener à la surface. Père, comme Jonas, il a crié à Dieu dans le ventre du poisson, dans les profondeurs. Et là-haut, dans le ciel, le plus haut, Dieu l'a entendu. Est-ce que l'oreille de Dieu a changé? Est-ce que l'amour de Dieu a changé? Est-ce que la force de Dieu a changé? Réponse est non. Et ce Jésus-là, il est ce matin avec nous. La grâce de Dieu repose. Oh, mes frères et sœurs, je vais m'arrêter. Mais je voudrais vous dire maintenant, il y a d'autres exemples, je vais m'arrêter. En vous disant, mais qu'est-ce qu'elle fait la grâce de Dieu aujourd'hui? Parce que ça, c'est quand la grâce de Dieu était sur la terre. Hein, elle donne la vie, elle donne la liberté, elle redonne l'espérance. Mais qu'est-ce qu'elle fait la grâce de Dieu? Au moment où je suis en train de vous parler, ben, je vais vous le dire ce qu'elle fait. Elle prie, car Jésus est auprès du Père et il prie pour nous. Est-ce que vous le croyez? Et il prie pour nous. Mes frères et sœurs, je pense à ce vieux prophète Élisée. Élisée qui voyait son jeune serviteur dans la peur. Il dit, oh Dieu, ouvre-lui les yeux. Et alors Dieu a ouvert les yeux et ils ont vu qu'ils étaient plus forts. Qu'est-ce qu'il fait Jésus là-haut? C'est vrai, vous l'avez dit, il prie. Et il nous a expliqué qu'est-ce qu'il va demander. Parce qu'il a donné un exemple avec Pierre. Pierre, Simon, Satan t'a réclamé pour te crûler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Non pas pour que tu sois protégé des crachats, non, mais pour que tu tiennes dans la foi. Et malgré tout, et envers et contre tout, Pierre a tenu. C'est vrai, c'est pas vrai? J'ai prié pour toi. Et quand il monte au ciel, il dit à ses apôtres, mais bien-aimés, je vous dis que je vais vous quitter, mais moi, dit Jésus, je prierai le Père. Et voilà ce qu'elle fait, la grâce de Dieu. Elle prie le Père pour qu'il vous donne un consolateur. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Ce matin, pendant que je vous parle dans ma faiblesse de l'homme, le Seigneur est en train d'intercéder pour chacun d'entre nous, pour les jeunes, pour les enfants, pour les plus âgés, pour les familles démunies. Et il demande à son Père que vous soyez remplis de la consolation et qu'en sortant de l'église, vous puissiez dire ce matin, « Dieu m'a consolé et m'a donné de l'espérance. » Ah, frères et sœurs, je voudrais terminer par la grâce de Dieu avec l'apôtre Pierre. Parce que lui aussi, il a désobéi. Il était dans le tribunal, là, pas trop loin. Il regarde ce qui se passe, parce qu'il est curieux, quoi. Et quand les inspecteurs de police, enfin non, quand les jeunes filles qui sont là, les servantes disent, tu es avec lui? Moi, je connais pas. Même pas, non. Tu es avec lui? Moi? Je sais pas, je comprends pas trop. Moi, je viens de Galilée, je comprends pas trop. Je sais pas. Elle nous dit, mais tu étais avec lui? Jamais vu! Connais pas, j'en sais rien. C'est une chute, hein? Une chute. Publique, mes frères et sœurs. Et si vous regardez cela, vous allez voir la grâce de Dieu. Oui, vous connaissez ce passage, Simon, fils de Jonas, même tu. Bon, je passe parce que je voudrais aller à quelque chose d'autre. 6 semaines après, ou 5 semaines, à Pâques, c'est combien de temps après la résurrection? 40. C'est ça. Et la Pentecôte, j'avais dit 40 plus 10, ça fait... Bon, bref. 5 à 6 semaines après, le même Pierre est à Jérusalem, dans la même ville. Et mes frères et sœurs, dans Jérusalem, il y a tous les représentants de l'Empire romain qui sont là. Tous les peuples. Ils sont là, par centaines et par centaines. Et qu'est-ce que Jésus va envoyer pour parler à ces centaines et ces centaines devant toute la troupe de l'Empire? Qu'est-ce que Dieu va employer? Va-t-il envoyer Jean, l'apôtre qui était près de la croix? Ben non. Va-t-il envoyer Jacques? Non. Savez-vous qui s'y va envoyer? Pour parler, il va envoyer Pierre.
Pierre, pour nous montrer que c'est ça la grâce de Dieu, là où le péché abonde. La grâce surabonde. Bien sûr, quand on laisse Dieu dans sa grâce agir, et mes frères et sœurs, ce jour-là, Jésus a choisi Pierre, et Jérusalem a été un moyen que l'évangélisation touche toutes les couches de la société, de l'empire de César. Tout ça par un homme qui avait été brisé, cassé, qui avait pleuré, et que Dieu a relevé. Comme des fois, il y a ce vieux chant, on va pas le chanter, mais je n'ai que Jésus pour me relever. Et regardez, moi j'ai toujours été frappé de cette phrase. Jésus lui dit, Simon, avant, quand est-ce que tu vas me renier? Je vais te le dire. Avant que le coq chante. Donc le coq a chanté, c'est écrit. Hein? Et Pierre s'est aperçu que, mais mes frères et les sœurs, je disais au Seigneur l'autre jour, mais enfin, Seigneur, un coq. Et le Seigneur il me dit, mais un coq, ça chante tous les jours. C'est vrai, je suis dans la campagne. Il chante tous les jours, quoi. Ça veut dire que chaque fois que Pierre va ouvrir la parole, il va se rappeler du coq qui chante. Et le coq qui chante, ça va lui rappeler deux choses, sa faiblesse et la grâce de Dieu. Toujours de sa vie, il se souviendra de qui il était et de ce que le Seigneur a fait pour lui. Mes frères et sœurs, Apocalypse 4, ça sera ma conclusion. Il nous est dit, Jean dit, après. Toutes les épîtres envoyées aux églises, vous savez, tous les l'église de Laodicée, Philadelphie, oui. Vous arrivez au chapitre 4, et il est écrit, après cela, Jean regarde dans le ciel, et savez-vous ce qu'il voit? Un trône, et quelqu'un assis dessus, et quelqu'un semblable à un agneau immolé. Qui c'est cet agneau qui est sur là? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, en l'an 2021, où les gens sont en train de trembler devant un petit virus, celui qui est assis dans le plus haut des trônes, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu, elle vit dans ton cœur, mon frère. Elle vit dans ton cœur, ma sœur. Et c'est cette grâce de Dieu que tu prendras tout à l'heure dans la Sainte Cène en prenant son corps et son sang. Et je terminerai par cette phrase, hébreu que vous connaissez. Approchons-nous donc avec assurance, du grand trône de jugement, du trône de la grâce. Voulez-vous vous approcher ce matin? Ma sœur, mon frère, toi qui as perdu la vie, toi qui as perdu la vie, toi qui es enchaîné, toi qui as désobéi, voudrais-tu t'approcher? Voulez-vous nous approcher du Dieu vivant et vrai? Pour être quoi? Pour obtenir miséricorde et trouver grâce, et pour être secouru dans nos besoins. On va courber nos fronts, voulez-vous? Pendant quelques secondes, frères et sœurs, sondez quels sont mes besoins. Seigneur, j'ai perdu la vie. Seigneur, j'ai perdu la liberté. Seigneur, je suis enfoui. Mais Seigneur, je m'approche de toi parce que je sais que tu vas me secourir. Je m'approche de toi car je sais que tu vas venir dans ma vie. Peut-être tu es tombé cette semaine, tu as été blessé, tu as reçu une mauvaise nouvelle. Il y a ce vieux chant écrit au début de l'autre siècle qui dit « Jésus, béni soit ton nom. » Dites-le avec moi. « Jésus, oh merveilleux. » Encore. « Jésus, suprême rançon. » Et pour toi qui es tombé, qui a des luttes, et si parfois j'ai su, si dans le mal je suis tombé. Qu'est-ce qu'elle a fait la grâce de Dieu?
Alléluia. Précieux nom de ton nom, Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré, oh, toujours.